Bien, bonsoir. Nous sommes l'Espace Raymond d'Esfrance et ravis de vous accueillir pour ces rencontres du vivant qui sont organisées avec l'école de l'ADN. Donc, pour être assez rapide, je vais vous rappeler le déroulé de la soirée. Nous commençons par une table ronde sur demain l'humain au génome parfait avec Monsieur Alain Claès, Monsieur Jean-Louis Fischer, Clémentine Bricou pour la modération, Madame Mathieu pour l'aspect biologie. Ensuite, nous aurons une pause à 20h avec un encas et à 20h30, la conférence de Monsieur Roger Gilles. Je passe la parole à Christian Berrier, qui est président de l'école de l'ADN, pour un petit mot sur ce partenariat où nous sommes ravis, bien sûr, de perpétuer, qui a commencé en 2006. Merci.
Merci. Bonsoir et merci d'être venus nombreux assister à cette table ronde et à la conférence qui suivra. Donc nous sommes effectivement dans le cadre des rencontres du vivant. Ça fait la sixième année que ça existe. Donc on a déjà balayé un certain nombre de thèmes. Donc là, c'est un thème qui est particulièrement d'actualité. Donc je ne vais pas parler longtemps, simplement vous dire qu'il s'agit d'une collaboration entre l'Espace Mendès France, dont le directeur nous fait l'honneur d'être présent ce soir, et l'école de l'ADN en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ce sont des collaborations toujours très fructueuses. Ça demande beaucoup de travail, hein, je crois, que pour réunir les conférenciers et pour organiser les soirées. Et avant de laisser la parole à la table ronde, je voudrais remercier les personnes qui y participent. Et donc leur laisser maintenant du temps pour nous parler du sujet de ce soir. Merci.
Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, il faut que je... Comme ça ? Ok. Alors, merci beaucoup de votre présence ce soir pour cette soirée sur l'humain. Demain, l'humain au génome parfait, avec ce fort volet bioéthique, donc co-organisé par l'Espace Mendès France et l'école de l'ADN Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être venu. Alors avant de plonger dans le vif du sujet avec nos trois intervenants, j'aimerais reposer un peu pour vous les cadres de ce dont nous allons parler ce soir, pour bien circonscrire le sujet qui est assez vaste. Sans doute vous avez plein de choses en tête quand on vous parle de génome et de modification du génome. Ce soir, nous allons surtout parler de bioéthique et donc sur le thème de la modification du génome. La bioéthique, ce sont toutes les questions éthiques et morales qui sont posées par les avancées techniques et scientifiques en santé, médecine et biologie. Il s'agit de poser des vraies limites pour éviter de nuire et de respecter la dignité de l'homme. Donc vraiment, c'est quelles limites pour ne pas nuire et respecter l'homme ? La modification du génome et les tests génétiques, donc toutes les technologies associées au génome, vous l'aurez compris, c'est au cœur des questions bioéthiques. Ça surplombe d'ailleurs un nombre de sujets qui ont été portés à débat lors des états généraux de la bioéthique qui ont eu lieu cette année, début 2018, dont vous avez sans doute entendu parler. Et donc ça surplombe les sujets tels que la recherche sur les cellules souches, sur l'embryon, la collecte des données issus de la recherche en sciences, les analyses génétiques, le diagnostic préimplantatoire, énormément de sujets surplombés par le génome et les modifications de celui-ci. Donc pendant les états généraux de la bioéthique, chaque citoyen était invité à se prononcer sur ces questions, sur 9 sujets, dont la modification du génome. Alors quand je vous prononce les mots génome et modification du génome, il y a peut-être énormément de choses qui vous viennent en tête. On peut penser à l'ADN, aux maladies génétiques, aux OGM, à CRISPR-Cas9, les ciseaux moléculaires, énormément de choses. Et peut-être que ces mots, ça vous pose question, ça vous effraie, ou au contraire, ça vous enthousiasme. Et c'est bien. Il y a plein de réactions qui sont nécessaires lorsqu'on pense au mot génome. Pendant longtemps, les techniques de modification du génome, les techniques de séquençage, d'analyse du génome, ont été très complexes. Et c'est un sujet qui a pris énormément de temps à se développer. Aujourd'hui, ce sont des techniques qu'on pourrait presque appeler routinières, qui sont faciles d'utilisation, de plus en plus faciles d'accès, et qui posent donc de plus en plus de questions bioéthiques. Comment respecter l'humain sans lui nuire grâce à ces techniques ? On peut aussi s'en réjouir parce que ça apporte plein de choses positives, notamment si on pense aux maladies génétiques. Ça pourrait peut-être être porteur de bonnes nouvelles pour guérir, soigner, éradiquer ces maladies. Mais ça pose aussi des questions un peu plus problématiques. Est-ce que ces techniques pourraient être utilisées non pas pour soigner, curer les maladies, mais pour améliorer l'espèce humaine ? Et est-ce que cette amélioration, elle est désirable et non nuisible ? Donc c'est vraiment un point, une question qui éclaire au mieux pourquoi les questions bioéthiques sont complexes et sujettes à de nombreux débats. On est tous différents, on a tous des opinions différentes. Et donc, sur ces sujets, forcément, on n'est pas tous d'accord. Ce soir, donc, pour éclairer un petit peu plus nos lanternes, peut-être, ou nous poser de plus en plus de questions auxquelles nous n'aurions pas pensé, je vous présente nos trois intervenants. Donc, à ma gauche, Alain Claes, qui est maire de Poitiers, spécialiste des lois de la bioéthique. Il est notamment rapporteur de la loi Leonetti-Claes 2016, qui est relative à la fin de vie. Il est vraiment intéressé par ces questions de bioéthique. Marion Mathieu, à ma droite, est formatrice scientifique de l'association Tous Chercheurs. Elle propose des formations aux associations de malades pour former les patients sur leur propre maladie, si je ne me trompe pas. Elle est aussi l'autrice du livre Test génétique, illusion ou prédiction, aux éditions Le Muscadier. Enfin, à ma gauche, Jean-Louis Fischer est embryologiste et historien des sciences. Il est spécialisé en embryologie et en tératologie. Donc après un point de 15 minutes de chacun de nos intervenants, nous aurons l'occasion de leur poser toutes les questions jusqu'à 20h, suite auxquelles nous aurons donc une pause et un buffet avant la conférence de 20h30. Du coup, on va profiter de votre présence, Alain Claes, pour vous poser la question. Vous êtes législateur, donc homme politique. La modification du génome est un sujet scientifique très complexe. Comment on peut s'emparer de ces sujets pour légiférer sur des pratiques scientifiques d'autres personnes, du coup.
Bonsoir. Je crois que ce qui est important, moi je commence par le rôle de Mendès France. Il faut garder à tout prix un établissement comme celui-là. Car je suis convaincu que je ne parlerai pas d'éthique, parce que je trouve que ce mot devient de plus en plus galvaudé. Mais je crois qu'il faut que notre société revisite la notion de progrès. Je pense que ça va être central dans les années qui viennent. Plus personne ose parler de cette notion de progrès, surtout les formations politiques, et on risque d'avoir devant nous deux écueils, une certaine forme d'obscurantisme, ou alors une fuite en avant qui poserait de graves problèmes. Et donc le rapport entre le citoyen et la science, madame, je crois que c'est essentiel aujourd'hui, plus que jamais. Et j'encourage l'État à mettre des moyens sur cette problématique. Nous, la ville de Poitiers, sur l'espace Mendès France, et c'est une de nos priorités dans le schéma d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, nous mettons l'équivalent d'1 million d'euros. C'est pas de l'argent gaspillé, c'est vraiment une priorité. Je voudrais vraiment rendre hommage à toutes les équipes de professionnels et de bénévoles sur cet établissement. Je vais raconter une petite histoire toute simple. Quand j'ai été élu député, je ne suis plus député maintenant parce que j'ai voté la loi sur le non-cumul des mandats et je suis resté maire et président d'agglomération et donc j'ai cessé d'être député. J'ai été élu la première fois député en 1997. Un an après, j'étais aux États-Unis. C'était la période du décryptage du génome. Et j'ai visité, que ce soit sur la côte Est ou la côte Ouest, des start-up qui faisaient des tours financiers pour réunir des capitaux. Et là, on ne voyait pas dans les salles d'attente des tableaux de maître, mais on voyait des brevets. Parce que c'était l'époque où on faisait des brevets extrêmement larges, car on ne savait pas ce qu'on allait trouver, et donc pouvoir rendre des brevets dépendants. D'où le sujet des brevets, qui est un sujet extrêmement, je parle sous votre contrôle, extrêmement important. C'était le premier rapport que j'ai fait. Et donc, vous vous souvenez tous des déclarations de Clinton et de Blair à l'époque. Le génome, il n'y avait plus qu'à écrire le livre, allait tout nous expliquer. Et 20 ans après, dernier rapport que j'ai fait à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, c'était sur l'épigénétique. Une vieille notion, mais qui revient énormément à la mode aujourd'hui. En gros, pour être simple, le génome n'explique pas tout, l'environnement est un élément essentiel. Donc, vous voyez, il faut garder, pour des, quelqu'un comme moi qui ne suis pas un scientifique, un spécialiste dans ma vie professionnelle de ces sujets-là, que j'ai découvert, non pas par hasard, mais par mon travail parlementaire, je crois qu'il faut garder beaucoup de modestie. Mais les intervenants-là seront beaucoup mieux placés que moi pour répondre. Pourquoi des lois bioéthiques ? Bon, on le sait, hein, tout ça vient de notre histoire, une histoire tragique. Les lois bioéthiques sont nées après Nuremberg, hein, après ces atrocités qui ont eu lieu. Et le rôle du législateur, ce n'est pas de freiner la recherche, pas de freiner la science, mais de l'encadrer. Car on est confronté à des droits qui se chevauchent. Le droit du chercheur de chercher librement, le droit du patient qui peut espérer, face à une maladie incurable, d'un jour on trouve une solution, puis le respect de la dignité humaine. Je crois que c'est sur ces trois piliers que le législateur travaille. Mais à quoi on assiste aujourd'hui ? On assiste à des découvertes scientifiques et à des possibilités, des techniques qui sont parfaitement au point, qui peuvent bouleverser à la fois un certain nombre de normes qui sont les nôtres et le fonctionnement de notre société. Il y a le premier risque, qui est un risque essentiel, c'est la marchandisation du vivant. Je pense que ce sujet de marchandisation du vivant est un risque toujours d'extrême actualité. Et donc, le législateur, je pense que c'est son travail, doit se prémunir la société de cela. Il y a un deuxième risque qui va devenir de plus en plus prégnant, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive. La médecine prédictive, bon, chacun sait ce qu'elle recouvre, mais peut, à un moment ou à un autre, remettre en cause, tout simplement, du fait de la responsabilité individuelle par rapport à des hypothèses de prédiction, le régime de solidarité sur lequel repose l'assurance maladie aujourd'hui. Donc, je veux dire par là que des progrès scientifiques aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur notre système social en France ou dans d'autres pays extrêmement importants. Et en cela, le législateur ne peut pas rester indifférent. Et c'est pour cette raison que les sciences sociales aujourd'hui auront un rôle à jouer extrêmement central. On parle beaucoup de données, on parle beaucoup d'algorithmes, tout ça a des conséquences, à mon avis, extrêmement importantes. Aujourd'hui, les sujets qui sont traités par le législateur dans les lois bioéthiques sont... Il y a quatre grands domaines. Il y a un domaine qui n'est pas traité par la loi bioéthique, c'est la fin de vie. La fin de vie, nous avons élaboré avec Jean Leonetti une loi qui a été adoptée au Parlement, qui mérite d'être connue et qui mérite d'être évaluée, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je n'aborderai pas ce sujet. Les quatre grands sujets sur les lois bioéthiques, il y a la procréation. Il y a la procréation médicalement assistée. Le sujet va revenir, mais le président de la République a déclaré qu'il ne sera traité qu'après les élections européennes, c'est-à-dire au printemps. Le sujet qui sera central, c'est est-ce que nous élargissons la, la procréation médicalement assistée non plus exclusivement pour des raisons médicales, mais pour des raisons sociétales. Ce sujet, je vous fais connaître ma position, j'y suis favorable, c'est-à-dire, en clair, l'ouvrir à des couples de femmes. Mais derrière cela, il y a d'autres sujets qui seront à traiter. La prise en charge de cette progression. Est-ce que c'est l'assurance maladie, excusez-moi de rentrer dans les détails, qui doit prendre cette disposition, ou est-ce que c'est un processus de solidarité pris en compte par d'autres formes de financement? Il y a ensuite, concernant la procréation médicalement assistée, il y a d'autres sujets qui sont pas simples à traiter. La congélation des ovocytes. La congélation des ovocytes, quelle durée, quel encadrement, c'est une question qui, à mon avis, est ouverte et importante. Et qui lie aussi des programmes de vie de nos concitoyennes sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. La réponse n'est pas forcément aussi évidente qu'on voudrait le penser. Et il y a lié à la procréation médicalement assistée des sujets que vous avez évoqués tout à l'heure, le diagnostic préimplantatoire. Diagnostic préimplantatoire, il y a 3 centres en France, je crois encore. Je crois qu'il n'y en a pas plus. 4 et il y en a, ah oui, 4 centres en France. Ça pose, bon, vous connaissez la problématique. Avoir un enfant pour soigner le grand frère ou la grande sœur. Je simplifie un peu. Donc, se pose à travers un mécanisme de procréation médicalement assistée, constitution d'embryon et tri d'embryon pour implanter l'embryon à la maman. Donc, vous imaginez, la technique, elle est connue. La question est de savoir si on veut l'enfant pour l'enfant, etc., à toutes les questions qu'il peut y avoir derrière. Et est-ce que comment on encadre pour que cette technique ne conduise pas à de l'eugénisme, triant les embryons en fonction des caractéristiques que nous voudrions pour l'enfant à naître. Bon, c'est pas un petit sujet. Il y a d'autres. Donc, sur le diagnostic préimplantatoire, ce débat aura lieu à nouveau au Parlement. Est-ce qu'on va étendre? Alors qu'il y a peu de cas en France, mais on va, il va rebondir. Et est-ce qu'on ouvre en dehors du secteur public? C'est un sujet qui est devant nous aussi. Il y a d'autres sujets, l'implantation d'embryons post-mortem. C'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises au Parlement, mais qui est un sujet extrêmement délicat. Il y a un couple qui est dans une démarche de procréation médicalement assistée, je ne parle pas de gamètes, hein. Un embryon est constitué. Et le mari ou le compagnon meurt d'un accident de la voiture. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle des uns et des autres qui sont là, la possibilité pour la femme, c'est soit la destruction de l'embryon, soit le transfert d'embryon à des tiers. C'est posé, c'est peut-être le débat qui m'a le plus marqué au Parlement, en dehors de la fin de vie. Moi, j'ai défendu l'idée. À un moment, on avait eu une majorité au Parlement, mais après, ça a été cassé. Autoriser la femme l'implantation de l'embryon, post-mortem, après la mort de son compagnon ou mari. Alors, ceux qui étaient opposés à cela disaient, mais vous avez donné naissance à un enfant orphelin. Et si on l'accepte, quelles conditions il faut y mettre? Et le législateur avait travaillé. On était tous un peu dans l'interrogation, quelles que soient les positions qu'on a prises au bout du compte, laisser une période de deuil pour que la décision puisse être prise, j'allais dire, en toute connaissance de cause par la personne, et puis une limitation dans le temps. C'est pour vous dire que voilà un sujet sur lequel aussi il faut travailler et apporter des choses. Le rôle du législateur, vous voyez bien, c'est pas de remettre en cause. La technique, elle existe. Mais quelle technique la société accepte, autorise? D'où vraiment se réinterroger sur cette notion de progrès. Et c'est le rôle du législateur, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui est acceptable? Il y a un autre sujet, la GPA. Pour moi, ma position de toujours sur la GPA, je suis hostile à la GPA parce que je considère qu'il y a un risque de marchandisation du corps de la femme. Mais d'autres y sont favorables. Et certains disent, bon, oui, très bien, mais si vous acceptez la PMA pour un couple de femmes, vous allez instaurer une discrimination si vous autorisez pas la GPA. C'était encore des arguments qu'on utilisait il y a encore quelques jours sur des chaînes de télévision pour les hommes. Donc vous voyez que sur le domaine de la procréation, il y a toute une série de sujets qui seront en débat. J'ai l'intuition que sur ces sujets, il peut y avoir une majorité d'idées dans notre pays. Surtout sur ces sujets, il faut éviter les postures. Moi, j'ai souffert beaucoup de ces postures sur la fin de vie. On est de gauche, donc il faut être, entre guillemets, très progressiste. Hein. J'ai reçu la leçon tous les jours sur la fin de vie. On est conservateur. Non, non, les postures, j'en ai souffert au Parlement. Il faut aller au fond de ces sujets et essayer de trouver la bonne solution. Après, il y a le domaine de la recherche, c'est-à-dire la recherche génomique et les thérapies cellulaires. Le Parlement a travaillé beaucoup sur les cellules souches embryonnaires. Ça a été les épisodes à pu en finir. Ça a été l'interdiction. Et puis après, ça a été une autorisation qui était une autorisation sans être une autorisation. Le Sénat avait été capable d'écrire un projet de loi. Oui, à l'autorisation des cellules souches, la recherche sur les cellules souches embryonnaires, sous réserve que ce soit à des fins thérapeutiques et sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres techniques pour parvenir à ces fins thérapeutiques. C'est-à-dire que c'était la négation de toute recherche et après la formulation a été revue, a été beaucoup plus claire. Je fais une parenthèse, le législateur a créé une agence de biomédecine qui fonctionne bien et qui a eu une attitude, j'allais dire, responsable sur les accords qu'elle a donnés, je parle sous votre contrôle, à tous les protocoles de recherche. Mais il faut que vous sachiez quand même une chose, c'est que ces autorisations qu'elle donne sur ces protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires sont 9 fois sur 10 attaquées par la Fondation Le Jeune. Hein, heureusement, j'ai rien contre ces fondations, mais la Fondation Lejeune n'a jamais gagné. Hein. Mais pour vous dire que c'est quand même des attitudes qui sont prégnantes. Alors, sur les cellules souches embryonnaires, est-ce que la recherche est indispensable? Bien sûr qu'elle est indispensable. Bien sûr qu'elle est indispensable, parce que bon, ces cellules ont des spécificités, etc. Et on peut arriver à une médecine réparatrice. Alors, il y a d'autres cellules souches. Et puis, il y a eu des découvertes scientifiques, en particulier de Japonais, qui ont permis de reprogrammer des cellules adultes, qui ont les mêmes caractéristiques que les souches embryonnaires. Immédiatement, le Vatican en tête a dit, vous voyez bien, il n'y a plus besoin de faire de recherche sur les souches embryonnaires, etc. On pourrait tourner en boucle. Mais ce sont des sujets extrêmement importants. Donc, là encore, quelle est la question qui se pose? C'est protéger l'embryon. Mais dans le même temps, le Conseil constitutionnel n'a jamais voulu formuler une définition de l'embryon. Donc c'est une appréciation, et là c'est un débat qui peut durer extrêmement longtemps. Mais on comprend quand même bien qu'il y a un encadrement à faire. Mais là, je pense qu'on doit pouvoir faire réaliser ces recherches avec un encadrement qui, à mon avis, fonctionne bien au niveau de l'Agence de biomédecine en France. Ensuite, il y a toute la recherche sur le génome. Et c'est vrai que décrypter, décoder un génome il y a 10 ans et aujourd'hui, comme une mesure, c'est dans le domaine public. Hein. Le débat qui se pose aujourd'hui, c'est la maîtrise et l'encadrement. Au-delà de l'encadrement, c'est l'instrumentalisation. Et donc là encore, jusqu'à présent, sur la médecine prédictive, les lois bioéthiques sont claires, mais ce sujet va arriver. Il va falloir qu'on pose un certain nombre de questions et de savoir comment ces découvertes peuvent être utilisées dans notre société. Médecine du travail, embauche, responsabilité personnelle. Vous avez une prédisposition à développer un cancer du poumon. Vous travaillez dans une entreprise où les risques, il y a encore des risques pour le cancer du poumon, existent, mais vous êtes fumeur en même temps. Qui sera responsable à un moment donné? Il peut y avoir des contentieux entre l'entreprise, la personne, et voilà. Et comment faire un système d'assurance maladie, de solidarité par rapport à ça? Donc ce sont ces sujets-là qui sont devant nous. Et je trouve, je ne vais pas être plus long, je vais arrêter là, je trouve que le monde politique aujourd'hui, au bon sens du terme, les formations politiques, ne travaillent pas suffisamment ces sujets. Et pour moi, c'est vraiment la chose centrale. Parce que je sens bien ce qui est en train de se passer. Il faut voir tous les livres grand public qui sortent aujourd'hui. Où c'est une croyance absurde, aveugle, avec tous ces courants auxquels on assiste, transhumanisme, etc., sur le progrès infini, ou c'est l'obscurantisme total. Les deux se rejoignant bien souvent. Donc il faut que ceux qui auront à mener des politiques publiques demain répondent à ces questions. Car ce ne sont pas des questions individuelles, ce sont des questions collectives. Dans quelle société voulons-nous vivre? Et je pense que c'est la question, alors, bien sûr, l'évolution du travail, tout ça, c'est important, mais c'est la question centrale de notre société. Le progrès pour qui? Et le progrès, j'allais dire, à quel prix? Je crois que c'est ce sujet-là qu'on se pose. Et qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Quand je vois des conférences de consensus sur ces sujets interdits, ça ne s'est jamais passé à Mendès France, mais quelqu'un citait Grenoble, interdite parce que des manifestants étaient contre ces réflexions, c'est pas acceptable. Donc, je pense que sur le vivant, alors, je ne dis rien sur les données, mais c'est pas nouveau les données, hein, même si ça prend une tournure importante aujourd'hui. Moi, j'étais il y a quelques années en Islande, qui est un pays petit, où il y a peu d'habitants, où il y a eu une loi qui n'existe plus maintenant, mais vous pouvez aller sur Google, vous trouverez tous les détails de cette loi, en Islande, confiée à une entreprise pharmaceutique de croiser décryptage des génomes de la population, l'arbre généalogique, dossier médical, et voir quels étaient les médicaments, quelles étaient les voies à développer. Ça existait, c'était dans les années 2000-2005. Hein. Donc, c'est un enjeu, ce sont des enjeux économiques considérables. Il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste pour comprendre pourquoi Google, actuellement, envahit ce domaine médical. Envahit. Ça pose un problème de la personnalisation des données, mais ça oriente les recherches, les médicaments, bref, et le système dans lequel on veut s'organiser. C'est pas des débats théoriques, c'est des choses extrêmement, extrêmement concrètes. Ça va reposer tout simplement le rôle du médecin généraliste, qui sera devant un écran avec toute une série de données biologiques, etc. Quel va être son rôle, tout ça. Donc, il y a une multitude de sujets sur le vivant. Donc, moi, je suis favorable aux lois bioéthiques. À mon avis, il ne faut pas les réviser tous les quatre matins. Il faut garder des règles générales, qu'il y ait un cadre général. Mais revisitons le mot même d'éthique. Il ne faut pas que l'éthique, ça soit la bonne conscience des politiques publiques. Je crois que plus généralement, aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge sur cette notion de progrès, parce que là, nous sommes face, non pas à une évolution, on est face véritablement à des ruptures qui peuvent remettre en cause fondamentalement notre système, notre modèle de vivre ensemble, hein, en termes de solidarité. Donc, c'est un sujet, à mon avis, central. J'étais trop long. Merci.
Merci beaucoup. Et du coup, je vais revenir sur un point que vous avez abordé sur le génome et la médecine prédictive, parce que c'est totalement le sujet que Marion, à ma droite, va aborder juste maintenant. Donc, vous avez dit que ce n'était pas seulement quelque chose d'individuel, mais des solutions collectives à trouver ensemble. Du coup, ben, je propose d'en parler et d'aborder un peu plus le sujet maintenant.
Alors, donc, bonjour à tous. Il faut que je me mette vraiment à côté, je le fasse. Je le prends comme un cornet de glace, c'est ça, c'est bon. Je vois juste le diaporama. Et juste pour rebondir, du coup, moi, je vais vous parler plus des enjeux éthiques autour des tests génétiques et notamment liés à l'arrivée de nouvelles technologies d'analyse de l'ADN et notamment tout ce qui tourne autour du séquençage haut débit. Et donc je travaille en fait dans une structure à Marseille et on a participé, en fait, l'association de tous chercheurs, à l'organisation de certains événements dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Et pour la région PACA, justement, le thème génétique génomique avait été le thème traité pendant ces états généraux. Alors avant, peut-être, quand on parle de test génétique, en fait, ça consiste en quoi ? Ben, un test génétique, ça va être une analyse qui permet de regarder, d'analyser le matériel génétique d'un individu. Ça se fait le plus souvent à partir d'une prise de sang. Si on regarde le cadre réglementaire des tests génétiques, donc c'est particulièrement encadré en France. Et donc ça correspond, en fait, ces tests génétiques ne peuvent être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Et ce qui est important dans le cadre de ces tests génétiques, c'est la nécessité absolue d'avoir le consentement éclairé de la personne à qui on va faire le test génétique. Et elle doit avoir été informée en amont de la nature et de la finalité du test. Alors, finalité du test, on verra justement que ça peut devenir problématique avec les nouvelles techniques et notamment séquençage au débit. Et à qui peuvent être prescrits ces tests génétiques et dans quel but ? Si on veut regarder de façon assez schématique, en fait, un test génétique, il peut être prescrit à une personne qui est symptomatique. Ce test génétique va être là pour aider soit à poser, soit à confirmer un diagnostic. Un autre champ qui est en pleine explosion, notamment dans le champ de la cancérologie, sont des tests génétiques qu'on qualifie de tests compagnons, qui vont être là pour aider, en fait, à orienter un traitement qui va avoir plus de chances en fait de fonctionner sur cet individu. Donc ça, des tests génétiques qui sont prescrits chez des personnes symptomatiques. Un autre champ en fait d'application des tests génétiques, donc ils peuvent être proposés à des personnes qui sont asymptomatiques, donc en bonne santé. Là, ça va être les tests qu'on va appeler présymptomatiques ou de prédisposition, qui peuvent être réalisés chez une personne majeure qui veut savoir, par exemple, son risque, en fait, si elle est à risque ou pas, par exemple, de développer une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est à déclaration très tardive. Et ces tests peuvent être aussi proposés dans des populations, alors là, qui sont particulièrement protégées, à savoir les mineurs ou les majeurs sous protection juridique. Donc, dans ce cadre-là, ces tests, en fait, sont particulièrement encadrés. Et on a commencé à parler aussi des tests, un cas particulier de test qui va être réalisé en pré-symptomatique, c'est les tests qui sont faits sur l'embryon ou dans le cadre d'une fécondation in vitro, qui sont donc les tests, le test diagnostic prénatal, DPN, ou diagnostic préimplantatoire, donc avant implantation de l'embryon. Alors, avant de... parce que du coup, je ne sais pas exactement le profil des personnes qui sont dans la salle, ça me paraissait en fait important de revenir sur quelques notions de biologie en lien avec les tests génétiques, avant de discuter des enjeux éthiques. Du coup, un individu, en fait, est composé de dizaines de milliards de cellules imbriquées les unes avec les autres et qui contiennent, en fait, dans chacune de ces cellules, le matériel génétique. Et donc, chacune de nos cellules contient le même matériel génétique contenu dans les 46 chromosomes, les 23 paires. Et chaque chromosome, en fait, est constitué d'un long fil d'ADN. Alors, le chromosome, je peux comparer ça à une pelote et l'ADN va être le fil de la pelote. Et si on débobinait les 23 paires de chromosomes, les 46 chromosomes d'une cellule et que je mettais bout à bout, ça ferait l'équivalent d'un long fil de 2 mètres d'ADN contenu dans chacune de nos cellules. Et cet ADN, je peux le comparer à un langage chimique. Et ce langage chimique, au lieu d'être composé des 26 lettres qui servent pour le langage français, en fait, le langage ADN est composé de 4 briques élémentaires, les nucléotides qu'on symbolise par les lettres ATGC. Donc j'ai ces 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes contenus dans chacune de nos cellules. Chaque chromosome, je débobine, c'est fait d'un fil d'ADN. Et vous allez avoir répartis le long de ces différents fils d'ADN des fragments d'ADN qu'on appelle des gènes, qui correspondent à des portions d'ADN qui contiennent les instructions pour fabriquer une protéine donnée. Donc par exemple, la kératine, le cheveu, c'est constitué d'une protéine qui s'appelle la kératine, et on a tous quelque part sur une de nos 23 paires de chromosomes, le fragment d'ADN, le gène qui sert à fabriquer notre cheveu. Alors quand on parle de séquençage de l'ADN, ça consiste en quoi en fait, séquencer de l'ADN? Mais séquencer, ça veut dire en fait qu'on va lire nucléotide par nucléotide, lettre par lettre, ce qui constitue le fragment d'ADN qui nous intéresse. Sachant que la totalité de notre ADN, ce qu'on appelle le génome, c'est l'équivalent environ de 3 milliards de nucléotides, 3 milliards de lettres. Donc quand on dit qu'on a séquencé le génome, c'est vous imaginez un bouquin qui est constitué de 3 milliards de lettres et on a lu les différents constituants. Alors, ces techniques de séquençage, elles ont énormément évolué. Les premières techniques, en fait, ce qui a valu le prix Nobel aux deux scientifiques qui ont mis au point les premières techniques de séquençage, notamment Sanger en Angleterre et puis Gilbert, milieu des années 77. Et c'est, alors, il y a eu quelques évolutions de ces techniques. Avant, ça utilisait de la radioactivité. Après, on a utilisé des composants fluorescents. Mais c'est avec cette technique, on a parlé tout à l'heure du projet Génome Humain, à l'aide de ces premières techniques de séquençage qui a été rendu possible le projet de génome humain qui a duré 13 ans, de 90 à 2003, qui a impliqué différents instituts, parce que c'était un projet pharaonique en fait à l'époque, 20 instituts impliqués un peu partout dans le monde, qui ont été impliqués pour séquencer, pour lire ces 3 milliards de nucléotides qui constituent le génome d'un individu, avec un coût clairement non négligeable de 3 milliards de dollars. Donc retenez comme ordre de grandeur 13 ans, 3 milliards de dollars pour séquencer pour la première fois la totalité du génome d'un individu. Alors ces techniques, ça oui, c'était, je voulais juste pour vous montrer, un des instituts qui avait participé au séquençage du génome humain, là c'est aux États-Unis et c'était une photo du laboratoire avec des machines de partout. Donc là c'était des plateformes disséminées dans 20 instituts et qui occupaient des pièces entières. Alors maintenant, avec l'ère de la miniaturisation, tout ce qui est nanotechnologie, en fait, il y a eu une révolution des techniques qui permettent de séquencer l'ADN avec l'arrivée au milieu des années 2000 du séquençage qu'on appelle séquençage à très haut débit ou séquençage massif parallèle. Et les machines en fait, qui permettent de séquencer, maintenant, tiendraient sans problème sur une table comme ça, en fait, une machine de cette hauteur-là, qui permet de séquencer en quelques jours ou quelques semaines, pour un coût qui est en chute libre, à l'heure actuelle, on est autour de 1 000 $ le séquençage d'un génome d'un individu, donc qui se fait en quelques semaines. Donc vraiment une révolution en termes de technique, en fait, de miniaturisation, et qui permettent maintenant, pour des coûts qui sont totalement envisageables, en fait, de séquencer très rapidement le génome d'un individu. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, dans les hôpitaux, en fait, quand on avait besoin de réaliser des tests génétiques, on pouvait utiliser les techniques d'origine, en fait, techniques de Sanger de séquençage ou d'autres tests génétiques. Comme le coût et le délai est en train de chuter, en fait, vous avez dans les hôpitaux l'arrivée de ces techniques de séquençage haut débit. Donc avec une approche en fait qui est donc des techniques qui sont en train d'arriver à l'hôpital, on passe initialement d'une approche qui était très ciblée de test génétique où on allait regarder un gène ou même une région particulière d'un gène pour essayer d'identifier éventuellement une anomalie qui pourrait expliquer la pathologie ou le tableau clinique du patient, à des approches en fait qu'on appelle pangénomiques plus globales où vous allez analyser de façon massive la totalité de l'ADN d'un individu. Alors, des techniques en fait, qui permettaient de regarder en une fois en fait, la totalité de l'ADN, la totalité des chromosomes, ben, il y avait une technique qui est utilisée depuis longtemps qui s'appelle le karyotype, qui est la technique utilisée par exemple pour mettre en évidence une trisomie 21 chez un individu. Alors là, cette technique-là, elle utilise un microscope. Et la seule chose en fait, que vous pourrez voir en utilisant cette technique-là, c'est est-ce que le nombre de chromosomes est normal ? Est-ce que l'individu a 46 chromosomes ? Ou est-ce que la structure assez grossière du chromosome est normale ? Mais en aucun cas, en fait, vous n'avez le degré de finesse pour pouvoir lire en fait, nucléotide par nucléotide de quoi sont constitués les chromosomes. Et ça, justement, c'est avec l'arrivée du séquençage. Vous avez à la fois une analyse globale et surtout un degré de résolution qui est très élevé, en fait, une finesse de l'information qui est très forte. Donc si on regarde, alors il y a de nombreuses problématiques qui sont associées à l'arrivée du séquençage haut débit en clinique, mais je voulais peut-être mettre le doigt sur quelques-unes avec vous. Alors la première problématique, elle est liée aux données qu'on appelle secondaires. Alors ce que j'appelle données primaires, c'est vous avez un individu avec un tableau clinique, différents symptômes, et vous allez regarder par exemple un tableau clinique évocateur de la mucoviscidose et vous allez essayer de regarder si vous arrivez à mettre en évidence chez cet individu des mutations dans le gène qui est impliqué dans la mucoviscidose, gène CFTR. Donc ça, les données primaires, ça va correspondre à des mutations qu'on peut retrouver dans le gène, mais en rapport avec le tableau clinique de l'individu et pour lequel, en fait, le test a été prescrit. Et à côté de ça, en fait, on va qualifier de données non sollicitées, de découvertes fortuites, de données secondaires, des mutations qu'on peut retrouver dans des gènes, mais qui ne sont pas en rapport avec l'indication initiale. Et là, vous voyez bien qu'en fait, en analysant de façon globale le génome d'un individu, ben, on se focalise plus sur le gène qui peut être muté en lien avec la pathologie, mais on va regarder, en gros, les 23 000 gènes en fait, qui constituent le génome d'un individu. Alors, ces données non sollicitées, elles ne sont pas spécifiques de la génétique et pas spécifiques du séquençage au débit. Il y a cette problématique, par exemple, déjà avec l'imagerie, où vous pouvez faire un examen de type imagerie pour, pour quelque chose d'anodin, et on vous découvre en même temps une tumeur cérébrale. Donc ça, ces données non sollicitées, elles existent déjà dans différents champs de la médecine, sauf qu'elles deviennent de plus en plus problématiques avec l'arrivée du séquençage au débit. Et là, sur ces données secondaires, est-ce qu'il faut les rendre ou pas les rendre ? En fait, il y a une fracture au niveau des praticiens actuellement, alors qu'on retrouve à l'échelle internationale clairement, mais qu'on retrouve aussi en France, avec un clivage entre les praticiens qui prônent plutôt la transparence avec la recherche active, à la fois dans le gène qui est impliqué, qui est en lien avec le tableau clinique, mais aussi d'autres gènes. Alors, les Américains ont utilisé en fait le terme de gène actionnable pour parler de gènes pour lesquels, si on trouve des mutations, on va pouvoir mettre en place une action, par exemple, proposer un traitement, améliorer le suivi, proposer un diagnostic, etc., un suivi ou un conseil génétique. Et du coup, les praticiens qui sont plutôt pour la recherche à la fois de mutations dans le gène, les données primaires, mais aussi les données incidentes, eux, leurs arguments, c'est que plutôt, ça permet en fait de savoir éventuellement aux patients de se soigner mieux et éventuellement de donner une information qui pourrait être utile aux autres membres de sa famille. Et à côté de ça, vous avez des praticiens. Alors, la mouvance, en fait, qui prône plus la transparence. Donc, aux États-Unis, il y a quelques années, je pense il y a 3-4 ans, une société savante américaine avait listé 56 gènes qu'il qualifiait d'actionnables. Et alors, à l'époque, ça a été discuté après, mais en fait, eux, ce qu'ils recommandaient, c'était qu'un individu qui vient faire un test génétique, un individu symptomatique qui vient faire un test génétique, on allait lui donner systématiquement les résultats associés aux gènes impliqués avec son tableau clinique et aussi les résultats concernant les 56 autres gènes actionnables. Donc là, ça a été quand même assez critiqué dans la communauté scientifique et puis aussi des médecins en disant qu'on ne peut pas imposer quand même et c'est au patient de choisir s'il veut savoir ou pas savoir. Mais en tout cas, l'idée de forcer la main, vous faites un test où vous avez un pack, à la fois les mutations en lien avec votre tableau clinique mais toutes les autres, ça ne peut pas être imposé. Et en parallèle du coup de ceux qui sont plutôt sur la réserve, en fait, qui prônent plutôt la prudence, et il y a notamment pas mal de praticiens en Europe qui favorisent plus des approches ciblées. Alors, même en utilisant les techniques de séquençage au débit, vous pouvez toujours utiliser ces données. Donc, ce sont des données énormes. En fait, il y a un champ de la biologie qui a explosé, qui est la bioinformatique. Donc, toutes ces données, ces milliards de séquences, en fait, vont être mises sur un ordinateur. Et vous pouvez choisir artificiellement d'imposer des filtres sur votre ordinateur. Même si vous avez tout lu, vous demandez au logiciel, en fait, qu'il vous sorte que les données qui correspondent aux gènes qui vous intéressent. Donc, ce qui vous permet quand même de mettre des garde-fous et du coup de minimiser les données incidentes qui vont être obtenues. Et du coup, les praticiens qui sont plutôt sur le volet prudence, en fait, eux, ils insistent sur l'importance en fait pour le patient de ne pas savoir. Il a le droit de savoir, mais il a aussi le droit de ne pas savoir, en fait. Alors on verra juste après aussi, il y a certaines données qui ne sont pas encore totalement stabilisées, donc qu'il faut donner avec précaution, et au risque du coup de donner moins d'informations, au risque de ne pas donner des informations qui pourraient être utiles pour le patient. En fait, c'est ça, c'est pas blanc-noir, en fait, et il y a des arguments qui sont entendables des deux côtés. Et donc, au niveau des pratiques, à l'heure actuelle, même sur le territoire français, en fait, selon les généticiens, il y a des points de vue qui sont différents. Et l'important, du coup, d'impliquer les patients aussi dans cette réflexion et de savoir concrètement qu'est-ce qui est bon pour chaque individu. Une autre problématique, c'est la problématique liée aux données non stabilisées. Alors, tout à l'heure, on disait, en fait, on a séquencé le génome humain, donc la séquence est au final 2003. On a cru naïvement qu'on avait tout compris en 2003. On s'est vite rendu compte qu'on ne comprenait pas forcément tout. Donc, on est arrivé avec ces 3 milliards de lettres qui sont lues, mais arriver à les interpréter correctement, ça, c'est plus compliqué. Donc, il y a eu des programmes, 1000 génomes, 100 000 génomes. On va essayer de séquencer le génome de plein d'individus pour essayer de comprendre de façon plus détaillée chaque mutation et le lien, l'impact en fait de ces mutations sur la santé de l'individu. Ce qui a conduit en fait à classer les mutations, donc à la fois à partir de données accumulées en science, de logiciels de simulation, les mutations. Elles sont classées en fait soit comme des mutations où on est sûr qu'elles sont pathogènes, donc elles vont être associées à un tableau clinique à une maladie, des mutations probablement pathogènes, des mutations où on est sûr en fait qu'elles ne sont pas pathogènes, par exemple des mutations dans le gène de la kératine qui vont faire que j'ai un cheveu frisé ou pas frisé, ça on est sûr que c'est pas du tout associé à une maladie, donc c'est classé comme non pathogène. Et on se retrouve en fait actuellement avec toute une série de mutations dont on ne sait pas vraiment comment les classer. Est-ce qu'elles sont pathogènes, pas pathogènes? Et il y a tout un flou en fait actuellement dans la communauté scientifique. Certaines mutations, on ne sait pas encore comment les classer. Le problème, c'est quand on fait le séquençage en pratique clinique, est-ce qu'on fait ces données-là en fait, où on n'est pas sûr en fait si on doit les classer comme pathogènes ou comme non pathogènes? Et là encore, les avis ne sont pas tranchés. L'Agence de biomédecine avait été sollicitée sur le sujet et la Haute Autorité de Santé ont donné des règles de bonne pratique justement vis-à-vis de ces données de signification inconnue qui s'appellent les VUS, les variants de signification inconnue, c'est le terme anglais. Et à l'époque, en fait, mais là, ça peut être rediscuté, ce qui avait été dit par l'Agence de biomédecine, c'est que les connaissances en génétique sont en évolution continue et qu'une interprétation d'un résultat, à un instant donné, ça peut être une signification inconnue, mais imaginez, en 2018, on ne sait pas interpréter une mutation et en 2019, on va savoir qu'elle est pathogène et associée à telle ou telle maladie. Et ce qui a été recommandé, en fait, par l'Agence de biomédecine, c'est que ces données doivent être mentionnées dans le compte-rendu qui va être donné aux patients. Donc ces variants de signification inconnue doivent être marqués sur le compte-rendu, mais ne doivent pas être utilisés pour la prise en charge en termes de, par exemple, diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Donc ça, c'est le cadre. Mais imaginez, en fait, donc, il y a eu un cas comme ça à Marseille, dans le département de génétique, un couple qui a eu un premier enfant avec un tableau clinique de déficience intellectuelle. On essaye d'identifier la cause génétique qui pourrait expliquer cette déficience intellectuelle et on fait du coup des analyses globales du génome et on trouve un variant de signification inconnue où on n'est pas bien sûr en fait, si cette mutation-là pourrait expliquer le tableau clinique de l'enfant. Le couple vient en consultation, la femme est enceinte, donc en cours de grossesse, et elle demande en fait si on ne peut pas réaliser un test génétique sur le fœtus, parce que le couple en fait ne souhaite pas avoir un deuxième enfant qui soit atteint de déficience intellectuelle. Et là, on se voit dans une situation compliquée où, en fait, en gros, le généticien, il a juste ce variant qui est compliqué d'interprétation comme donnée, avec des recommandations où normalement on ne devrait rien faire, avec une pression du couple qui a déjà un enfant malade, et on imagine bien qu'il y a des cadres de loi, et dans le quotidien, ce n'est pas forcément simple peut-être de respecter comme ça. Et du coup, la question, en fait, avec ces données qui ne sont pas stabilisées, insuffisantes, est-ce que l'action vaut mieux que l'inaction ou l'inverse, en fait? Est-ce que c'est mieux de rien faire, de laisser poursuivre la grossesse au risque d'avoir un deuxième enfant qui est malade? Ou au contraire, est-ce qu'il faut mieux avoir une action, proposer un diagnostic prénatal sur des données qui ne sont pas sûres, avec le risque, par exemple, si on détecte sur le fœtus la même mutation que sur l'enfant, on va peut-être faire une interruption médicale de grossesse. Et si on se rend compte 2 ans après qu'en fait, ce qu'on a cru être pathogène n'était pas pathogène, on a peut-être fait une interruption médicale de grossesse pour rien. Il y a aussi la possibilité, on pourrait rassurer si on ne trouve pas la mutation sur le fœtus, dire bon, ben, vous continuez votre grossesse. Mais si la mutation, en fait, on pensait qu'elle était pathogène, mais en fait, ce n'était pas celle-là et c'était une autre, on a continué une grossesse alors qu'on a faussement rassuré le couple. Donc, ce sont des situations qui sont compliquées avec cette souffrance toujours de couple. Et comment est-ce qu'on y répond, en fait? Et la place du médecin, du spécialiste, en fait, qui est délicate parfois. Donc, en fait, on est en train de changer en termes de pratique clinique. À l'époque, en fait, jusque très récemment, en fait, les généticiens, les praticiens, ben, ils venaient voir, il y a un patient, en fait, qui venait les voir, qui présentait éventuellement différents symptômes ou qui avait une histoire familiale de maladies génétiques héréditaires dans sa famille. Et quand on arrive, on peut se demander si l'arrivée de ces nouvelles techniques de séquençage global du génome, ça ne va pas bouleverser un petit peu les pratiques avec des données génétiques qui ont été sollicitées par le patient et puis d'autres qu'on va lui donner en dehors de toutes ces sollicitations initiales. Et puis, ces données qui ne sont pas vraiment stabilisées, qu'est-ce qu'on en fait et à quel point le patient peut avoir un choix éclairé en fait, face à ces dilemmes et ces questions. Et dernière diapo. Une autre problématique, je pense que vous la soulèverez aussi, surtout avec l'émission qu'il y a eu la semaine dernière, sur les offres de tests en ligne. Alors, ces tests, ils sont interdits en France, donc c'est hors cadre de loi. Mais il y a plein de sociétés à l'étranger, notamment une société qui s'appelle 23andMe aux États-Unis, qui propose ces tests. J'ai encadré des formations avec une généticienne à destination des patients. Et dans la salle, j'avais plusieurs patients qui avaient envoyé leurs échantillons à séquencer à l'étranger. Donc il ne faut pas se leurrer, en fait, même si c'est interdit, il y en a qui le font, avec un problème de coût, parce que du coup, c'est seulement ceux qui peuvent se le permettre qui vont faire les tests en ligne. La question aussi de la qualité de ces tests, est-ce qu'ils sont vraiment fiables ou pas? Et une des grosses critiques, c'est aussi ces tests, vous avez un écouvillon, vous grattez, vous envoyez votre échantillon, vous avez le reçu qui est envoyé par la poste. C'est quand même clairement encadré en France et admis qu'il y a une importance en fait de conseils génétiques et d'information des patients au moment du rendu. Là, quand vous recevez le courrier par la poste, ça peut être un traumatisme et particulièrement mal interprété ou un choc pour les individus. Et d'autres pistes de réflexion, là, en fonction de vos discussions, la conservation des données, des échantillons, qui est-ce qui doit les conserver, pendant combien de temps, à qui appartiennent les données et les échantillons. Les risques de discrimination qui ont déjà été abordés, quelles garanties pour le malade qui va faire les tests, et risques de marchandisation. Il y a eu le cas justement de la société 23andMe qui a revendu une partie des données à une société pharmaceutique. Donc voilà.
Merci beaucoup, Marion Mathieu. Ça nous éclaire et ça nous, surtout, en tout cas pour moi, ça me fait réaliser à quel point toutes les situations sont toujours très complexes et englobe des facteurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé personnellement. Du coup, c'est vraiment important d'en discuter tous ensemble pour se rendre compte vraiment de cette complexité de situation. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit retour historique, justement avec Jean-Louis Fischer, notre dernier intervenant, qui est historien des sciences, pour voir un peu ces questions éthiques dans l'histoire et aujourd'hui. Voilà.
Debout, on n'entend pas. Ah si, ça y est, ça marche. Voilà. Si vous permettez, juste deux petites réflexions sur ce qui a été dit. On a parlé dernièrement d'eugénisme, et souvent, quand on parle de procréation médicalement assistée, de DPI, ceux qui sont contre mettent toujours en avant ce danger d'un eugénisme. Or, personnellement, je pense que le terme est mal choisi et pas du tout approprié. Eugénisme, c'est un terme qui vient de la fin du 19e siècle, qui a une histoire. Ça signifie, si on prend vraiment la signification d'eugénisme, c'est E, bien, génisme génétique, génisme, pardon, génération, c'est-à-dire la bonne génération, qui a été traduit assez rapidement par la bonne race, qui était un peu le rôle et le but, en fin de compte, de cette nouvelle science qui apparaissait dans cette fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, quand on met ce terme de génisme sur les PMA, ça n'a rien à voir. L'eugénisme est entaché par une action politique. C'était le politique qui décidait comment une population devait être, comment une population devait se conduire. Ça n'a rien à voir avec les PMA ou les DPI que nous pratiquons aujourd'hui. Et je dis ça parce qu'il y a un terme qui a été mis en place par René Friedman dans les années 90, qui avait bien vu la non-relation qu'il pouvait y avoir entre l'eugénisme et les procréations médicalement assistées. Il avait proposé ce terme qui était celui de progénisme. Le progénisme, c'était procréatique et génétique. C'était donc un terme qui devait être totalement acceptable et accepté pour justement définir et caractériser ces nouvelles technologies de la procréation humaine. Donc, voilà, je voulais simplement vous dire cette petite chose, qui n'est pas si petite que ça, en fin de compte, mais qui peut être importante, pour essayer de diffuser ce terme de progénisme à la place de ce terme d'eugénisme qui n'a, pour moi personnellement et pour beaucoup d'autres aussi, qui n'a pas de signification entre ce qui se passe aujourd'hui et ce terme d'eugénisme. Deuxième petite remarque, si vous me permettez, concernant les GPA. Alors c'est vrai que quand on parlait de GPA, on pouvait dire les femmes sont libres de leur corps. On ne peut pas empêcher cette liberté. J'étais pendant pas mal de temps dans cette opinion et favorable au GPA. Et puis petit à petit, alors on a parlé de la marchandisation, c'est des termes qu'on met en avant, ça, il est évident que c'est quelque chose d'inacceptable. Mais il y a une chose qu'on a oubliée et dont on n'entend jamais parler, c'est le bébé. Le bébé, le sujet bébé, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traite? On s'en fiche complètement. Là, le bébé, il passe. Je vous dis ça parce qu'il y a eu des études faites par des pédopsychiatres. Et il y a eu une pétition il y a quelques mois. J'ai signé cette pétition contre justement pour l'interdiction des GPA, en raison même de la non-considération du bébé. Le bébé, les pédopsychiatres nous disent, à partir du sixième mois, le bébé commence à entendre des sons, il reconnaît, donc il commence à construire son environnement. Et quand il naît, on le détache de cet environnement. Il n'a plus il n'a plus l'odeur de la mère qui est son environnement premier. Donc on arrache vraiment le bébé à un environnement qui est le sien, dans lequel il doit se reconnaître, et apparemment, ce n'est pas sans dommage pour lui. Voilà, c'était simplement pour vous dire que dans les GPA, s'il y a quelque chose à interdire, s'il y a une raison autre que celle de la marchandisation, il y a cette considération du bébé qu'on a complètement oublié, le sujet bébé, il existe et il méritait un instant d'attention. L'histoire. Alors, quand on parle, bien sûr, des procréations médicalement assistées, de toutes ces nouvelles technologies, l'historien peut voir grandement, je vais vous expliquer très, très rapidement, si on fait une grande histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas continue, bien entendu, il y a des grandes coupures. Et dans les représentations même de l'embryon ou du fœtus humain, on peut définir trois grandes périodes. Je vous donnerai quelques détails à l'occasion, si on est assez réduit en temps. Les trois grandes périodes qui sont... Il y a une période qu'on va débuter à partir de ce qu'on appelle le corpus hippocratique, donc vers les moins 400, jusque dans les années 1670, vers la fin du XVIIe siècle. C'est une grande période qui considère que l'embryon est le résultat du mélange de deux semences, la semence masculine et une semence féminine. Donc pendant très très longtemps, on a considéré que la femme produisait une semence, elle avait des testicules féminins qui produisaient cette semence, et au moment de l'acte sexuel, il y avait ces deux semences qui se mélangeaient et qui formaient l'embryon. Et comme chaque semence est... Comme Campanella pouvait le dire dans La Cité du Soleil, nous sommes ce que nous mangeons. Donc chaque semence était représentative du corps masculin et du corps féminin. Et l'enfant était donc le résultat de ces semences. Et ces semences féminines et masculines, il y avait des caractères qui dominaient, d'autres qui étaient dominés. C'est pour ça qu'Hippocrate lui-même disait « Un enfant ne ressemble pas tout à fait au père ou à la mère, mais il ressemble un peu aux deux. Il a toujours les mélanges plus ou moins importants des deux caractères du père et de la mère. » Alors, c'est la première grande période de la considération de la formation de l'embryon et du fœtus humain. C'est cette grande période donc, qui part de l'Antiquité, disons, jusqu'aux années 1600, on va dire une date précise, allez, 1672, où là, il y a une grande révolution qui se passe parce que la femme va perdre ses testicules féminins pour acquérir des ovaires. Il va y avoir donc des médecins En particulier, il y a une grande école hollandaise qui s'intéresse à la chose. Et on va décider, on va faire des expériences, des observations plus exactement, pour démontrer qu'en fin de compte, les femelles animales, les mammifères, et donc transposer la chose, l'observation à la femme, ont des organes, ces fameux testicules féminins qui ne produisent pas une semence, mais qui produisent des œufs. Voilà. Alors donc, c'est vraiment une nouvelle période. Il va falloir... Alors, ça va poser beaucoup de questions. Alors, on en aurait pour des heures autour des théologiens, hein, parce qu'eux, ils étaient avec leur petite goutte de sperme. Et là, de ce coup, on se retrouve avec la femme qui possède des ovaires et qui produit des œufs, et que l'embryon sera donc un individu qui va être généré par ces œufs. Alors, une question va se poser, mais à quoi sert la semence masculine? Alors, c'est vrai que quelques années plus tard, dans les années 1777, on va découvrir dans cette fameuse semence masculine, on va découvrir des espèces d'animalcules, hein, qu'on appelle les animalcules. On les appellera spermatozoïdes que dans le début du 19e siècle. Ces animalcules, à quoi ça sert, ces animalcules? Alors là, on se posera beaucoup de questions aussi. Et les théologiens vont vraiment rentrer dans cette... Parce qu'ils se sont toujours intéressés depuis longtemps à ces questions de la génération et de sexualité, comme aujourd'hui, du reste, il continue. Et ils vont mettre en place, il y a une idée qui va se développer, c'est que, en fin de compte, c'est Dieu qui, au moment de la création d'Ève, a placé dans les vers d'Ève toutes les générations emboîtées les unes dans les autres. C'était l'idée que la création a créé, en fin de compte, toute l'humanité dans son infinité, de temps ou pas. Parce qu'on se posera la question, oui, mais alors, si dans les ovaires des femmes, on va avoir une génération que par les femmes, ça va être déjà un problème pour les hommes. Cette génération par les femmes qui représente toute l'humanité, est-ce qu'elle est indéfinie? Est-ce que Dieu a voulu une divisibilité des germes comme ça jusqu'à une infinie sans limite? Ou bien est-ce qu'il a voulu une limite quelque part? Voilà, ça va être des grandes questions. Et le 18e siècle va être essentiellement, c'est ce qu'on va appeler la préexistence des germes et leur emboîtement, va être essentiellement axé sur ces grands problèmes de savoir si les germes sont préexistant ou pas, et qu'est-ce que ça signifie, et comment se fait la fécondation. Enfin, c'est des questions qui vont être très importantes. Pourquoi, par exemple, il va naître des individus mal formés? Est-ce que les monstres ont été voulus par Dieu ou pas? Voilà, ça va être donc des questions théologiques, essentiellement, qui vont animer ce 18e siècle. Alors, c'est les œufs, et on peut aller... La prochaine coupure sera celle de la procréatique, on va dire là. On va avoir donc une nouvelle conception de la génération, de l'embryon, du fœtus, dans cette période qui débute avec en 1977, hein, c'est bien ça, si je me souviens, la naissance du premier bébé éprouvette. Et là, on est vraiment dans une nouvelle période de vision de l'embryon et du fœtus. Bon, c'est trois grandes périodes. Mais dans ces trois grandes périodes, il faut penser que de tout temps, les médecins ou ce qu'on appelait les savants ont eu toujours une idée de pouvoir modifier, de pouvoir maîtriser cette fécondation. On n'en a pas parlé, mais il y a le choix du sexe qui rentre dans cette problématique. Et on a aujourd'hui, avec les dépistages préimplantatoires, on les utilise... En France, pour des questions pathologiques, on va choisir, quand il y a une maladie, une pathologie liée au sexe, on choisira plutôt une fille qu'un garçon. Donc ça, c'est un choix qui est autorisé. Mais le choix personnel peut aussi se pratiquer. Il suffit d'aller dans un pays voisin où le DPI se fait pour convenance personnelle et non plus pathologique. Bon, ça peut aussi poser beaucoup de questions et beaucoup de problèmes sociétales, parce qu'il n'y a que ceux qui ont la possibilité d'argent de pouvoir se rendre ailleurs pour satisfaire leur désir. Mais l'idée de choisir le sexe de son enfant, c'est quelque chose qui remonte eh bien, dans le corpus hippocratique, hein, dans ces années lointaines, où on a poser un diagnostic quelque part sur la détermination, sur la reconnaissance plus exactement du sexe féminin et masculin, on a dans le corpus hippocratique, on a émis cette idée que le sexe masculin était sec et chaud. Hein, on pensait dans ce terme de caractéristiques, et le sexe féminin était humide et froid. À partir de l'instant où on a ces deux oppositions, sec, chaud, froid et humide, on pense qu'un régime peut donner ces qualités. Et le corpus hippocratique explique dans les régimes, mais si on veut un garçon, il faut que le couple prenne un régime qui soit chaud et sec, c'est-à-dire qu'il mange beaucoup de viande, qu'il prenne de l'alcool, qu'il prenne des choses qui vraiment collent au corps et qui soient. Et là, la semence, qui est en fait aussi ce que nous mangeons, la semence correspondra à ce que nous mangeons. Donc automatiquement, ces semences eh bien, seront sèches et chaudes et donneront naissance à un garçon. Alors c'est la femme et l'homme qui doivent faire le régime en même temps. Si on veut une fille, eh bien, on mange de la salade, on boit beaucoup d'eau, on prend des bains, etc. Et à ce moment-là, on aura une semence qui sera froide et humide et on aura une fille. Alors ça va perdurer. Alors des solutions, des recommandations plus exactement pour avoir un garçon ou une fille, ça va aller, hein. On en a encore en ce début du 21e siècle, on parle encore de régime, mais tout ça ne marche pas. Bon, il faut dire, il y a eu des consultations dans des grands hôpitaux comme à Port-Royal, à la maternité de Port-Royal, pendant longtemps il y avait une consultation qui était un médecin qui s'appelait. Il avait un nom prédestiné, il s'appelait Papa. Et il faisait donc des consultations sur les régimes. Et ils annonçaient à peu près presque 90% de réussite. Alors c'est vrai, là-dedans, ce sont des primipares qui venaient en consultation. Et généralement, les couples voulaient un garçon. Bon, il y avait déjà, comme vous le savez, il naît à peu près 105, 106 garçons pour 100 filles. Donc on a déjà, bon, statistiquement, on est des. Bon,
on est déjà. Ça, c'est statistique.
Oui.
Okay.
Oui.
Est-ce qu'on sait un peu pourquoi? Pas du tout.
Pourquoi?
Pourquoi statistiquement il y a plus de garçons en premier enfant?
Ah, je peux pas. Non, non. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est possible.
Ouais, ouais. Ok. Ouais.
Ah oui. Oui. Oui, mais il y a tant que ça de Klinefelter.
Oui, non, mais c'est plus ou moins les Klinefelter et les Turner, etc. C'est un enfant, un embryon sur 800 dans les dernières statistiques, quelque chose comme ça.
Oui, mais enfin, je ne sais pas si ça joue.
Non,
beaucoup,
non, mais ça fait partie de ce genre de choses. Enfin, c'est pas les seuls. Là. Je prends un exemple qui est très connu, enfin, qui est connu des gens que ça intéresse. Ouais. Donc.
Oui, on en a, en effet. Oui, oui,
Ah, il est minuscule.
Oui. Il est plus fragile. Et, non, non, il est plus, il fait plus. Oui, oui. Mais vous savez que dans les années 60, on faisait la course aux spermatozoïdes dans le choix du sexe, en effet. Donc voilà. Mais enfin, bon, voilà, c'était un.
Désolée pour l'interruption.
Ou alors, il y avait la possibilité, comme faisait un médecin obstétricien de la fin du XVIIe siècle, quand il parlait au couple, il disait, vous allez avoir un garçon ou une fille. Alors, il sortait son cahier, puis il marquait le sexe opposé. Alors, quand le couple revenait et qu'il avait le bon sexe, alors il le félicitait, puis il faisait de la publicité. Et quand il avait le sexe opposé, le médecin sortait son cahier et disait, mais non, regardez, j'ai bien marqué ce sexe-là, c'est pas celui que vous aviez pensé. Voilà. Bon, pour dire que des méthodes, il y en a eu des centaines, parce qu'on avait encore dans ce début du 21e siècle, vous aviez encore sur Internet des personnes qui vendaient des calendriers lunaires ou pour choisir le sexe de son enfant, suivant les phases de la Lune, on avait un garçon ou une fille. Donc maintenant, alors bien sûr, avec le DPI, tout ça, ça a perdu beaucoup de charme. Mais voilà. Donc on a une espèce de continuité, vous voyez, dans cette idée de choix du sexe. Et une autre question qui est intéressante, qui est celle de l'ectogénèse, qui peut être un projet, en fin de compte. On en parle aujourd'hui, le problème de l'ectogénèse, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Vous savez, quand on était au début des années 70, est-ce qu'on pensait qu'une fécondation in vitro et puis une implantation, ça pouvait réussir ou pas? On était un peu dans une fiction. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ectogénèse, on est encore dans une fiction? Mais alors là, encore historiquement, c'est intéressant parce que l'ectogénèse, elle a été inventée déjà au XVIIIe siècle. C'est une histoire. Vous savez, au XVIIIe siècle, il y a eu un personnage, Réaumur, dont vous connaissez. Réaumur avait inventé une technique agroalimentaire. C'était pour produire des poulets en quantité. Il avait inventé cette technique de placer des tonneaux, des grands tonneaux, dans du fumier qui produisait de la chaleur. Il mettait des paniers dans ces tonneaux, il mettait des œufs, et il pouvait comme ça incuber plusieurs centaines d'œufs. Donc c'était quelque chose d'intéressant. Et il y a un utopiste du XVIIIe siècle qui a pensé, mais quelle idée, du reste il l'a dit dans son texte, pourquoi cultiver des poulets dans les tonneaux, pourquoi ne pas cultiver des hommes? Voilà, il disait, alors c'était un Anglais, il avait dit laissons aux Français d'élever des poulets et nous produisons des hommes. Et là, l'idée derrière était bien sûr pour pouvoir produire dans la quantité, pour pouvoir avoir ensuite des armées importantes pour le roi d'Angleterre. Donc, alors là, on va rentrer, on va voir dans une série justement de propositions pour faire des enfants et surtout des garçons, il y aura toujours ce contexte de construire une armée. C'est un peu la raison dans cette... Je vais finir là-dessus, je pense. Hein, voilà. C'est un peu une des raisons de tous ces mouvements, d'un mouvement féministe important qui a eu lieu dans ce début du XXe siècle et surtout... Après 1918, où là il y avait eu donc une perte de population importante, non seulement la guerre, mais également la grippe espagnole qui a détruit énormément de population. Et l'événement, la mise en place de ce qu'on a appelé de cette loi scélérate de 1920 contre justement les femmes qui avortaient et les avorteurs aussi, qui a été modifié. Bon, si vous voulez des précisions là-dessus, je pourrais vous en donner. Mais cette loi, en effet, conduisait, et c'était l'idée que la femme ne devait pas être libre de son corps, mais qu'elle devait être procréée pour l'État et procréer au maximum d'enfants, aussi bien des garçons que des filles. Alors on a parlé des garçons, c'était pour de la chair à canon, les filles pour de la chair à plaisir, mais beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons pour reconstruire des armées. Et ça a été, vous voyez, on était dans un sens qu'on pouvait appeler un eugénisme, dans la mesure où c'était l'État qui formulait des lois, qui dictait des lois, justement pour que cette procréation se fasse dans le sens désiré pour une politique et non plus pour un désir d'enfant. Voilà, donc je m'arrête là, parce qu'on pourrait en parler comme ça pendant longtemps.
Merci beaucoup. Et heureusement, il me semble qu'aujourd'hui, les lois justement sur la bioéthique s'attachent à demander l'avis aux citoyens et plus seulement légiférer pour l'État et par l'État. Du coup, je voulais revenir sur quelque... Oui, exactement. Prenez le micro. Si.
La première, c'était Roselyne Bachelot, je crois, qui était ministre de la Santé, Il y a eu une conférence citoyenne qui a bien fonctionné. Sur la fin de vie aussi, alors, c'est le Comité national d'éthique maintenant qui a la responsabilité de ces conférences citoyennes. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais c'est une méthode dont on a peu l'habitude en France. Les pays nordiques ont une plus grande pratique. Mais ça nécessite un temps long, c'est-à-dire une formation. Et je crois que c'est quelque chose qui... Moi, je l'expérimente en tant que maire de Poitiers sur un tout autre sujet que la bioéthique, sur un sujet municipal. Mais je pense que c'est quelque chose de très utile. On obtient des résultats, mais il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Hein, jouer le jeu et que le décideur public n'intervienne pas.
Hein, oui, c'est ça, parce que souvent, une des remarques qu'on peut faire en vue, enfin, contre ces consultations citoyennes, c'est que parfois, c'est fait dans le but de donner l'impression qu'on va prendre en compte le citoyen et qu'en fait, parfois,
si
c'est pas le cas.
Si c'est ça, c'est voué à l'échec et ça ne durera, pas longtemps. Moi, j'ai eu cette difficulté à Poitiers. Je le fais sur un sujet tout simple. Quel lien de mobilité il doit y avoir entre les Couronneries, qui est un quartier extérieur un peu au centre-ville, et le centre-ville. Donc, j'ai décidé de faire une conférence citoyenne donc, pour choisir le panel. Puis j'ai dit aux élus, maintenant, vous connaissez la méthode, il faut vous retirer du jeu. Les personnes qui ont été retenues vont être formées, vont avoir des interlocuteurs divers. Ça n'a pas été simple pour certains, mais nous, quand on décide, vous déciderez. Quand vous aurez l'avis des citoyens, à un moment ou à un autre, vous pourrez suivre cet avis, prendre un avis contraire, mais au moins vous aurez cet avis. Ce n'est pas évident.
Et je voudrais revenir, avant de vous laisser le champ libre, sur peut-être un point qui m'a marqué dans vos deux présentations, Jean-Louis et Marion. Vous avez tous les deux parlé du fait que, dans le cadre des tests génétiques, des gens allaient à l'étranger pour faire ces tests génétiques qui sont illégaux en France. Et pour le choix du sexe du bébé, alors que c'est illégal en France aussi, aller à l'étranger. Donc, alors... Justement, la question s'adresse à vous. En France, quand on élabore des lois bioéthiques, à quel point est-ce qu'on prend en compte la législation dans les autres États ? Voilà, parce que c'est aussi une question...
C'est l'éternelle question qu'on nous pose. Je voulais interdire la GPA, mais la GPA est autorisée à l'extérieur. Ça se fait là-bas. Pourquoi on le refuse ? C'est de la mauvaise conscience. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui... un pays, sur ces sujets-là, doit pouvoir se prononcer, quelle que soit la vie. Alors, il y a des difficultés, et des difficultés qui sont d'ordre juridique. Pour une GPA, vous savez, tout le débat qu'il y a, et qui n'est pas clos, c'est le statut de l'enfant né à l'étranger d'une GPA. C'est un autre sujet. Mais ce n'est pas parce que c'est fait à l'extérieur qu'on devrait l'accepter.
Hein ? Merci. Est-ce que parmi vous, dans la salle, vous avez...
Pardon. Sur votre mise au point sur l'eugénisme, je suis tout à fait d'accord. Et René Friedman a utilisé... Mais c'est vrai que le diagnostic préimplantatoire, je ne parlais pas de la PEB, non maîtrisé peut conduire à des dérives absolument inacceptables.
Oui.
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais si le politique, on va le prendre comme ça, si le politique autorise le diagnostic préimplantatoire sans aucun encadrement, il y a un risque. C'est ça. C'est pour cette raison que la loi encadre très strictement et qu'il n'y a pas beaucoup de centres en France. Je crois qu'il y en avait 3, il y en a 4 maintenant. 5 ?
Ça va vite.
Oui. Grenoble.
On va vous amener un micro.
Grenoble. Parce qu'il y a à la fois
sur la GPA, la remarque sur la GPA, la place de l'enfant, c'est une évidence. Quand j'entends des personnes dire froidement, bon, c'est une technique, même quelqu'un de célèbre qui a expliqué sa vie récemment. Fogiel, pour ne pas le nommer, a fait des déclarations qui m'ont un peu surprise, allant jusqu'à dire c'est pas sa mère.
Une petite remarque ici.
Oui, je voudrais juste ajouter, vous avez compris que j'étais généticien et je ne suis pas obstétricien. Le problème du sexe de l'enfant, il est extrêmement simple à résoudre. Pour la femme, pour savoir le sexe de l'enfant, il suffit de faire une échographie. On a le résultat du sexe et on est à un moment où on est encore en IVG. Donc là, il y a un vrai problème. Est-ce que l'obstétricien doit donner le sexe à 10 semaines de grossesse? C'est un débat. Mais pour avoir le sexe et choisir le sexe de l'enfant, il suffit d'avoir un bon échographe et de faire une échographie du fœtus.
D'ailleurs, pour une petite remarque, en Inde, il y a eu tellement d'avortements justement pour choisir le sexe de l'enfant que légalement, en Chine aussi, légalement, on n'a plus le droit du coup de donner le test de l'enfant dans la période légale d'IVG. Mais bon, du coup, il y a d'autres questions qui se posent autour.
Moi, du coup, je voulais peut-être rebondir un tout petit peu sur l'encadrement des tests dans le cadre du diagnostic prénatal ou préimplantatoire, même si il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas anodin, en fait, quand on choisit de proposer ça, parce que même dans le cadre de la trisomie 21, où on a élargi progressivement le champ des personnes qui pouvaient donc avoir recours au dépistage de la trisomie 21, on arrive à un stade où maintenant, quasi toutes les femmes pour lesquelles, en fait, on diagnostique une trisomie 21 pour son fœtus vont avoir recours à l'interruption médicale de grossesse et une stigmatisation peut-être en fait qui pourrait arriver des personnes qui choisissent de garder le fœtus en fait. Et du coup moi je travaille beaucoup avec des patients qui se demandent si à terme en fait est-ce qu'on va encore accepter la différence, le handicap dans la société quand on propose de plus en plus d'élargir le champ des maladies qu'on peut diagnostiquer à la naissance, qu'on peut dépister en diagnostic prénatal.
En disant ça, madame, ça me rappelle une nuit horrible à l'Assemblée nationale sur ce sujet.
Oui.
Où il y avait le débat, où il y avait un jeune député qui défendait, je présidais la commission diagnostic systématique.
Oui.
Et un autre député qui défendait pas de diagnostic et en disant mais il faut faire rencontrer dame des parents qui ont un enfant avec ce handicap. Mm. J'ai reçu dans mon bureau ici à Poitiers une grand-mère, des personnes disant on peut vivre avec ce handicap. Je dois vous dire, je n'irai pas plus loin, ça m'a mis très mal à l'aise. Mm. Parce que je ne pense pas que c'est possible. Je vous livre ce que je ressens en tant que législateur. Je ne pense pas que cette possibilité offerte à une femme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la reconnaissance du handicap. Parce que ça crée un climat difficile. Et le lendemain de ce débat, à l'Assemblée nationale, le jeune député qui avait demander le diagnostic préimplantatoire, c'est payer une publicité de la Fondation Le Jeune dans le Figaro contre ça. Et j'ai demandé au ministre de l'époque, qui était Bertrand, de défendre, même quelle que soit son opinion, de défendre ce député devant l'Assemblée nationale. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Mais ce débat existe, oui. Ça m'a beaucoup marqué.
Il y a une réaction ici. Là.
Je ne suis pas spécialiste de...
Excusez-moi. Simplement, ce que disait madame est un sujet important. Le dépistage permet, si le diagnostic est positif, d'avoir recours à l'avortement. Et derrière, se pose le problème du handicap. Comment on traite une famille qui a eu, pour X raisons, un enfant atteint de cet handicap? Donc c'est le rapport entre le progrès scientifique et le handicap. Mmh. Est-ce qu'on veut une société sans personnes handicapées? C'est ça le sujet.
Et du coup, pour prolonger la réflexion, est-ce qu'on veut une société sans risque?
Ah oui.
Parce que vous l'avez très bien démontré dans votre approche. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y a compatibilité entre le progrès qui offre aux individus, je dis bien aux individus, hein, des potentialités énormes de choix, où la notion de projet va se substituer très vite à la notion de destin, et on pourrait l'évoquer, mais en même temps, avec une forte demande de sécurité. C'est-à-dire que la prise de risque, elle est, et on le voit très bien au travers d'autres exemples, empruntés à d'autres domaines de la science, où le risque est de moins en moins toléré par les individus, avec toutes les conséquences pour la société et non pas pour les individus.
Et avec une vision faussée, en fait, qu'en analysant l'ADN, on va pouvoir tout prédire aussi clairement. On laisse dire à l'ADN beaucoup trop de choses, en fait. Oui, oui, oui.
Merci. Y a-t-il d'autres remarques ?
Véronique Dujardin, je suis secrétaire de l'Association nationale des porteurs d'anomalies chromosomiques. Nous avons été entendus au CCNE, où nous avons posé une question qui n'a pas été évoquée ce soir. On avait le droit chacun à trois sujets. Sur la question de l'accessibilité aux gamètes, dans le cadre de l'élargissement de la PMA, en particulier, quelle priorisation d'accès aux gamètes, l'information des femmes donneuses d'ovocytes sur le risque lié à la stimulation, parce que ce n'est pas un geste. Autant donner du sperme, c'est anodin. Donner des ovocytes, ce n'est pas anodin. Et l'entorse qui a déjà été faite dans le cadre des lois actuelles de bioéthique sur la gratuité du don et du matériel, des corps et fragments de corps humains, dans le cadre de l'autoconservation des ovocytes, puisque actuellement, c'est pas un don, c'est pas un paiement en tant que tel, mais une femme peut autoconserver ses ovocytes personnels. Par exemple, elle n'a pas envie d'avoir un enfant, elle n'a pas le compagnon, etc. Elle va se faire une stimulation. Les 5 premiers ovocytes sont congelés. Les suivants, elle a le droit de les garder pour elle. Donc c'est... Oui, c'est-à-dire que actuellement, si vous voulez, la seule façon d'autoconserver pour vous-même des ovocytes, c'est de faire un don, de donner les premiers et... avoir l'espoir que ce don, enfin que cette stimulation vous donnera suffisamment d'ovocytes pour en avoir qui pourraient être conservés pour vous et pas donnés. C'est une entorse quelque part à la gratuité du don humain qui est prévue dans les lois françaises actuelles de bioéthique. Voilà, donc je voulais savoir quelle était la position du législateur n'est pas encore connue dans l'évolution, mais c'est un sujet à poser également au débat, je pense. La gratuité est un sujet, mais actuellement, peut-on encore parler de gratuité dans le cas de l'autoconservation des ovocytes ?
Mais là, effectivement, c'est hypocrite dans le cas du don d'ovocytes, parce qu'en fait, le don est quand même pas anodin pour la femme qui donne, et c'est une contrepartie, en fait, qui lui... Mais c'est sûr que c'est hypocrite comme façon de... Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi.
Une réflexion à propos du handicap. L'homme fait partie de la nature et vous savez, dans ces années 59-60, Darwin publie son Origine des espèces et avant justement ce concept de sélection naturelle. Il avait remarqué, parce que la question pouvait se poser pour l'homme, que l'homme protégeait souvent ces personnes handicapées. Donc il avait conclu dans un chapitre, en fin de compte, que l'homme ne s'était pas ouvert à une sélection naturelle telle qu'on la rencontre dans le monde animal ou végétal, mais qu'il avait sélectionné la compassion. Hein, et la compassion, c'était donc la caractéristique de l'homme auprès de ces personnes handicapées pour les protéger ou les aider. Voilà une petite réflexion à propos de cette question du handicap. Que, en effet, s'il y a un pouvoir politique qui prenait vraiment en main cette procréatique, cette nouvelle façon, on pourrait aller vers une suppression. C'est un peu l'idée, peut-être, quelque part, je ne sais pas, mais justement, de supprimer le handicap, que tout soit parfait, que on soit tous beaux, et voilà.
René Friedman, que vous citiez tout à l'heure, a répondu à cette question en disant que la science ne pouvait pas résoudre toutes les injustices. Et je crois qu'il a raison.
Moi, je voulais poser une question plus technique. Je suis incompétente, hein, mais ce qui me préoccupe, c'est le degré de fiabilité du résultat d'un test génétique. Est-ce qu'il y a une organisation entre les différents laboratoires qui font ces tests pour savoir s'il y a concordance, quoi?
Alors justement, pour interpréter d'un point de vue technique, en fait, ce qui est problématique avec le séquençage haut débit, c'est interpréter correctement les résultats qui sont obtenus. Et là, effectivement, il n'y a pas une base de données unique, mais les laboratoires, les départements, les services de génétique en France utilisent des bases de données internationales. Donc oui, il y a des outils pour pouvoir interpréter correctement telle ou telle mutation qui sont trouvées. Mais avec, je vous ai dit, le petit bémol, qu'il y a quand même beaucoup de mutations dont on ne sait pas vraiment bien comment les interpréter. Donc, soit il y a des revues de littérature de familles, de patients, en fait, qui sont référencées, des bases de données et des logiciels de prédiction qui vont pouvoir, à partir des changements qui se produisent dans l'ADN, essayer de prédire à quel point ça va modifier la protéine qui est fabriquée. Donc oui, mais ces outils sont en construction et en évolution au fur et à mesure que les connaissances scientifiques existent. Mais il faut imaginer que les départements de génétique sont en réseau et qu'il y a des bases de données qui sont utilisées. Vous avez levé la main pour préciser, je crois.
Non, juste la génétique, c'est aussi de la biologie. Et comme pour tout service de biologie, on a des contrôles de qualité, à savoir qu'on reçoit des prélèvements, on fait les examens, on donne le résultat, et les gens qui nous ont envoyé l'ADN à analyser connaissent la mutation. Est-ce qu'on a trouvé la même mutation ou pas? Donc c'est du contrôle de qualité sur, quand la question posée est sur un gène bien précis. Si je veux savoir si une personne a la mucoviscidose et qu'on m'envoie un ADN et qu'on me demande quelle est la mutation de cette de l'ADN qu'on m'a envoyé, ça s'appelle un contrôle de qualité, et il y a à peu près 200 laboratoires en Europe qui participent, dont 40 en France, et on a le résultat. C'est un contrôle de qualité comme n'importe quel examen de biologie. Alors maintenant, ça c'est pour un gène donné. Le problème, c'est pour le génome entier, et là c'est tout le problème que Marion a décrit tout à l'heure.
J'ai une petite question. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'importance des tests génétiques qui sont demandés via Internet, donc de façon non officielle finalement? Est-ce que ça, dans le champ médical?
Ah, dans le champ médical. En France, par exemple, ceux, oui, qui vont le faire de façon illégale. C'est loin d'être, en tout cas dans le département de génétique à Marseille, c'est loin d'être anecdotique. Nous, on a encadré une dizaine de sessions, et sur les dizaines de sessions, j'ai eu 3 ou 4 patients qui avaient envoyé leurs échantillons et qui témoignaient. Et dans le département de génétique, ce qu'ils disent, c'est que les individus donc viennent avec le rendu, et eux, ce qu'ils ont choisi en fait de faire, c'est pas de dire c'est illégal, vous sortez, mais ils refont le test pour être sûr que le résultat qui a été obtenu par les via un test en ligne, en fait, est bien le bon résultat. Mais après, chiffrer, c'est compliqué, ouais. Mais...
Non, il y a un élément qui n'a pas été cité par le Comité consultatif national d'éthique sur l'un des points et d'une recommandation du Comité consultatif national d'éthique. C'est l'autorisation à tout individu de faire des tests sur soi-même pour un diagnostic, un dépistage présymptomatique des maladies autosomiques récessives. Je m'explique, nous sommes tous ici, nous sommes à peu près une 60aine. Donc, excusez-moi, je connais un peu la mucoviscidose, donc je vais parler de la mucoviscidose. Le taux de mutation de la mucoviscidose, c'est une personne sur 30. Donc ici, il y a 2 personnes qui sont mutées sur le gène CFTR de la mucoviscidose. Jusqu'à présent, il est interdit de tester le gène CFTR sur les 60 personnes de l'assistance. Le Comité consultatif national d'éthique a émis une recommandation donc il y a 1 mois ou 2 en disant que pour des maladies autosomiques récessives qui style CFTR, il est recommandé qu'on ait le droit de faire ce dépistage.
Mais ça n'a pas été précisé qui est-ce qui paierait dans leur avis, en fait.
Ah si, si, ils le disent dans l'avis. Dans
l'avis, j'ai vu si le couple demandait, il pouvait faire appel à un test préconceptionnel. Quand, en fait,
non, dans l'avis, excusez-moi, dans l'avis, ouais, il est très clair que le Comité consultatif national d'éthique le dit. Ce test au hasard CFTR, mais c'est pour de nombreux gènes, c'est pris en charge par la solidarité nationale. Ah, c'est la demande du comité consultatif national d'éthique.
Je ne l'ai pas pris comme ça, moi.
Attendez, ça vient d'être écrit, ça a été écrit il y a un mois,
fin
deux
septembre.
Mois. Maintenant, ouais. C'est au législateur de prendre ses responsabilités.
Oui, du coup, pour l'instant, c'est toujours illégal. Et on doit attendre la révision des lois bioéthiques pour savoir si ça va être.
Il y a à la fois illégal les tests en ligne et un test préconceptionnel hors antécédents familiaux. À l'heure actuelle, on ne peut pas le faire. S'il n'y a pas d'antécédent du tout de mucoviscidose, vous ne pouvez pas demander un test présymptomatique.
Une autre remarque pour clôturer cette table ronde ?
On recommence à 8 heures.
À 8h30.
8h30.
Une dernière question
ou un commentaire.
Oui, ou un commentaire. Non ? Eh bien, merci beaucoup. Merci Alain Claes, Jean-Louis Fischer et Marion Mathieu pour cette table ronde qui était très intéressante. Ah,
juste
une
un
dernière
mot.
Remarque.
Comme le professeur Gilles est là, les états généraux qui ont eu lieu, moi je félicite la démarche. Je suis d'autant plus à l'aise que je suis plus parlementaire, mais au niveau régional, il y a eu des travaux sur la préparation des lois bioéthiques de grande qualité. Hein, d'habitude, c'était le Comité national d'éthique, le Conseil d'État, c'était l'Office parlementaire. Mais en plus, là, il y a eu un travail citoyen au niveau régional, des comités régionaux d'éthique de qualité.
Et, je crois que c'est... et ça a permis vraiment de sensibiliser et de discuter avec différents publics de ces sujets-là. Et c'est sûr que dans tous les cas,
tout
ça a été vraiment bénéfique. Oui.
Eh bien, je n'ai qu'un conseil à vous donner dans ce cas. Allez lire les comptes rendus des états généraux de la bioéthique. C'est très synthétique et très clair. N'importe qui peut comprendre tous les sujets abordés parce qu'ils s'adressaient à n'importe qui. Donc n'hésitez pas, sur les 9 sujets, donc il y avait modification du génome, recherche sur l'embryon, mais aussi santé et environnement, de nombreux sujets qui nous touchent aujourd'hui. Voilà, pour clôturer cette première table ronde, je laisse Laurent nous donner les indications.
Oui, quelques informations pratiques. On vous propose de se retrouver à 20h30. Donc avec le professeur Roger Gilles. Et là-haut, il y a un petit buffet qui vous est proposé pour tenir le coup toute la soirée. Donc voilà, qui est côté cafétéria. À tout à l'heure, 20h30 alors.